Pour cette troisième partie de ce radiobarque, Jacques Michaud, entrons un peu plus dans votre... Alors, ce que j'appelle l'interview côté face, c'est-à-dire notre invité, ce qu'il fait, ce qu'il aime faire, en plus de ce qu'il a fait, de ce qui se voit, en quelque sorte. Première chose, alors, on a dit au début que vous aviez été professeur de droit romain à la faculté de Montpellier. Vous avez démontré dans le cadre de cette émission que vous êtes surtout aussi un historien. Quelle est la partie prédominante pour vous? Êtes-vous plus historien, êtes-vous plus juriste?
Bien, j'ai commencé par être juriste, puis ensuite j'ai développé ça vers l'histoire, et maintenant je suis résolument historien, parce que pour moi l'histoire, c'est le mouvement. L'histoire du droit, c'est le droit qui évolue. C'est l'histoire d'une évolution, d'une mise en marche. Ce que j'appelle la tradition et que je défends souvent, c'est la transmission. Donc c'est un mouvement. On ne jette pas les choses vers l'arrière, mais on va vers l'avant. Mais il faut être muni de ce que nous a apporté le passé. Et c'est une philosophie que je cultive de plus en plus maintenant que je suis âgé. Et je voudrais la communiquer, exhorter la jeunesse de Narbonne à apprendre et à exiger que l'on leur donne les racines. Savoir ce qu'ils ont été ici, ce qu'ils nous ont précédés et ce qu'on peut être. Narbonne a été une capitale, elle peut être une capitale. Mais si on ne le sait pas, on ne l'imaginera pas pour l'avenir. Voilà.
Donc votre philosophie, c'est tout à fait les antipodes de la formule « du passé, faisons table rase ».
Absolument, mais bien sûr. On n'est pas au musée Grévin, il ne faut pas reconstituer le passé, s'y enfermer, ça c'est une maladie, c'est un vice. Mais par contre, détruire ce qui est notre patrimoine, ce qui est notre richesse. Notre histoire appartient à tout le monde, à tout le peuple. Un peuple sans histoire, sans mémoire, on l'a dit souvent à propos de grandes nations dangereuses, mais c'est terrible. Donc, être Narbonne sans connaître l'histoire de Narbonne, c'est triste. Voilà. Et ça, sinon, on devient petit.
Alors, il est vrai que même, les choses ont changé forcément avec ce musée, mais très souvent, par exemple, les touristes, quand on leur disait Narbonne, ancienne capitale romaine, d'abord, première chose, ils vous disaient « Ah !» À Arles, il y a des arènes, à Nîmes, il y en a, ici, il n'y en a pas. Donc, les restes n'étaient pas très visibles, et vous l'avez évoqué, la façon dont ce musée s'est fait avec...
Certes.
Finalement, c'est aussi une leçon peut-être du passé. On pense que beaucoup de choses ont été démolies par les barbares, les invasions barbares. En réalité, les Romains ont beaucoup détruit eux-mêmes leurs propres monuments.
Absolument. Absolument. Et ça fait partie de la grande histoire de Narbonne. Narbonne n'a pas de monument, mais elle les a utilisés, mâchés, réutilisés, remployés. Elle s'en est servie sans arrêt. Il y a des pierres apparentes sur beaucoup de maisons de Narbonne, ou bouquets d'immeubles. Narbonne a été prise de danger au moment des invasions, à partir de, et surtout au IIIe siècle. On a construit des remparts. Alors, pour aller plus vite, on a pris les monuments romains. On l'avait déjà fait.
Y compris le Capitole, par exemple.
Le Capitole a été une véritable carrière de pierre. Et c'est vraiment, on s'en est toujours servi. Et donc, il nous est resté présent. C'est de la manducation, si j'ose dire, du patrimoine romain. Donc, voilà, Narbonne est romaine jusqu'en elle-même. Voilà. Mais ça se voit pas.
Voilà, mais il faut savoir donc que finalement, ouais, ce sont les Romains souvent eux-mêmes qui ont détruit leurs monuments en réemployant les pierres.
Bien sûr, lorsqu'il y avait des urgences, on a le cas à Campignol, là-bas, au Castellou, on sent très bien qu'il y a eu un grand coup de mer, et on y a découvert récemment un bateau, grâce notamment aux archéologues que vous avez cités tout à l'heure, et à Corinne Sanchez notamment. Eh bien, on a découvert un bateau qui avait lui-même été utilisé vite pour renforcer une digue qu'il avait fallu établir à la hâte, et le tout est entouré, écrasé par des éléments directs du Capitole. C'est exposé dans le musée, vous verrez. Et ça, c'est absolument poignant. C'est tout à fait l'histoire de Narbonne. Ça, c'est une réserve inépuisable, la romanité.
Oui, voilà. Et ce musée s'explique finalement par du réemploi, qui était une vraie philosophie.
Tout à fait. C'est une vraie philosophie, et c'est une façon de concevoir le patrimoine. Et justement, le thème propre de ce musée, par rapport à un musée comme Nîmes, qui a des éléments, des monuments, etc., eh bien, Narbonne, l'intérêt de cette histoire, c'est de montrer une renaissance, une redécouverte. Et vous voyez, le mouvement dont je parlais tout à l'heure, c'est un mouvement. Tout d'un coup, Narbonne se réveille, sa romanité se réveille grâce à la technique et au thème, à la thématique de ce musée. Voilà. Mmh. C'est ça, c'est un mouvement.
Alors justement, à propos, être narbonnais, vous disiez, c'est une certaine richesse, on l'a en soi. Bon, il est vrai que, de façon très objective et très concrète, ça a engendré d'être narbonnais un certain nombre de, si je puis dire, de pointures dans l'archéologie. Je pense à Corinne Sanchez, qui va être notre prochaine invitée d'ailleurs.
Oh oui,
Raymond Sabrier, qui avec son épouse a passé des décennies sur le clos de la Lombarde. Marc Azéma, qui a reçu une distinction très récente pour son travail. Donc finalement, on a l'impression que l'héritage ressort quelque part.
Oui, c'est exact. Et c'est le même réflexe qui se continue depuis 1833. La création de la commission archéologique a été demandée par des citoyens de Narbonne et obtenue grâce à l'appui de Guizot à Paul Tournal, le grand préhistorien. Et la commission archéologique avait pour mission justement de rassembler tous les matériaux qui étaient en train de se vendre. Et chez les antiquaires, chez des commerçants, chez des trafiquants de toutes sortes, Narbonne perdait tous ses monuments. Et donc ce mouvement de la commission archéologique a créé les musées, a créé la bibliothèque, a créé les archives de Narbonne, et a suscité en même temps, parallèlement, du rêve là-dessus. Quand on acquérait des tableaux, quand on redécouvrait des pierres, eh bien, on imaginait ce qu'avait pu être Narbonne et tout le monde soupirait sur la gloire de Rome qu'on ne voyait plus. Je l'ai entendu combien de fois ça, et ça a suscité des vocations d'archéologues et notamment d'abord du préhistorien Paul Tournal, qui est le père de la préhistoire française.
Oui, alors justement, encore un Narbonnais qui a laissé une trace importante dans l'histoire.
Pharmacien de la rue droite. Eh bien, cet homme est le père de la préhistoire française. Notre éminent collègue Jean Guilaine l'a très bien démontré. Il a découvert l'homme fossile. Il a reculé l'histoire humaine d'un temps immémorial. Et il a démontré que l'homme, le lien entre l'homme et la géologie, etc., c'est passionnant. Et à partir de là, il y a eu à Narbonne toujours chez certaines personnes cette passion et ce brûlot de retrouver le passé pour partir avec passion. Et Tournal a une vie de journaliste, il a eu une vie littéralement d'aventure, de voyageur, etc. Et c'est lui qui a incité à la création de la commission archéologique et qui a été accordée par le ministère Guizot et le préfet de l'Aude. C'est une commission qui est préfectorale d'ailleurs, et qui d'ailleurs les membres sont toujours, selon la tradition, nommés par le préfet de l'Aude, les membres résidents. Et elle avait une mission de service public.
Oui, donc il y a une sorte de chaîne presque ininterrompue.
C'est une chaîne, et je dirais même, pour te répondre, que le musée Narbovia, c'est l'apogée du rêve de la commission archéologique. Voilà. Enfin, le voilà, mis à jour, le voilà. Ce dont tout le monde parlait.
Un aboutissement.
Mais absolument. Et d'ailleurs, même avant la commission archéologique, il y avait des ingénieurs royaux, comme Garrigue, qui se faisaient monter sur les remparts pour dessiner les pierres, et qui nous dessinaient ce que l'imaginaire qu'ils avaient. Narbonne était comme ça. Là, il y avait ceci, là, il y avait cela. On a des plans, des dessins complètement fantaisistes, mais qui montrent ce désir. Et bien maintenant, ça y est. Tout le monde a la réponse, c'est Narbovia.
Alors, justement, à propos de Romains et de ponts romains, aujourd'hui, la ville de Narbonne connaît un problème alors d'urbanisme. C'est bon, tout le monde est au courant aujourd'hui. Ce pont romain, l'arche qui subsiste en tout cas, non, elle n'est pas prête à s'effondrer, mais il y a un gros problème avec les maisons qui sont sur ce pont. Comment voyez-vous ça, vous, non pas comme architecte, mais comme historien ?
Eh bien là, Narbonne est frappée au cœur et à l'image, parce que le pont des marchands de Narbonne, il est très célèbre. Et je vais vous dire une chose, même les Arabes qui envahissent Narbonne, en 719, qui resteront 40 ans chez nous, ont des chroniqueurs qui ont raconté l'époque. Et les chroniqueurs arabes de cette époque, je pense à Al-Athir, tout ça, racontent Narbonne. Ils disent, c'est une ville très grande, Arbouna, on l'appelait. Arbouna est une ville très grande, et il y a un grand pont sur lequel il y a des maisons. Ils décrivent déjà.
Et il y avait déjà,
il était oui, il y avait déjà, il y avait déjà des établissements. Enfin, au Moyen-Âge, ensuite, on a usurpé beaucoup. Les remparts étaient souvent usurpés, les maisons s'agrippaient aux remparts, etc. Et donc, c'est dire, c'est un symbole de Narbonne et c'est une originalité magnifique. On le compare au Ponte Vecchio de Becker, de Florence, n'est-ce pas? Et c'est très important. Et puis, c'est le bras de l'ordre qui est franchi. Il y avait 9 arches. C'était très large. D'ailleurs, la reconstitution des barques et des cours Mirabeau, et ont permis de comprendre la véritable largeur de l'ancien lit de l'Aude. Donc, à ce point de vue-là, cette atteinte au pont est une chose inquiétante, mais je pense qu'on trouvera des solutions. Mais c'est vrai que c'est pour l'image de Narbonne, c'est fondamental. C'est la voie domitienne. Et la voie domitienne, on a trouvé les traces de Charroi un peu plus tôt, là, sur la place de la mairie.
De là,
c'est oui. Le lien entre l'Italie et l'Espagne. Mais c'est la grande signification. Rome a toujours veillé à garder la maîtrise de son chemin pour aller en Espagne. Charles Quint, à l'inverse, quand il était en Espagne, languissait vers Narbonne pour pouvoir aller vers ses possessions du Milanais. Donc ici, c'est stratégique. Bon, puis alors, touristiquement, c'est une merveille, voilà.
Eh bien, on va conclure là-dessus, Jacques Michaud, donc, sur ce pont des marchands qui se révèle symboliquement un lien entre l'Italie et l'Espagne, comme vous venez de le dire, en espérant qu'il sera très vite de nouveau fonctionnel pour les Narbonnais et les commerçants de cette ville. Merci en tout cas à vous, Jacques Michaud, juriste et historien, d'être venu nous expliquer une partie de ce que vous avez pu réaliser depuis des décennies.
C'est moi qui vous remercie.
La prochaine invitée, je l'ai dit tout à l'heure, sera Corinne Sanchez, avec laquelle on va rester évidemment dans l'archéologie et un certain nombre de fouilles qui se déroulent tous les étés dans la région narbonnaise. Merci encore à vous, merci aux auditeurs. Je rappelle à ceux qui voudraient réécouter l'émission après diffusion en FM qu'ils pourront la trouver en podcast sur notre site grandsudfm.com. Merci à vous, à la semaine prochaine.